chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour, au micro Armelle Lucas. Merci à Radio Grand Ciel d'ouvrir son antenne à la librairie La Procure, ce qui me permet d'accueillir au téléphone Monsieur Xavier Leloup. Bonjour monsieur.
Bonjour Madame Lucas.
Alors Monsieur Leloup, vous serez à la librairie le samedi 21 mars pour une dédicace de votre tout premier livre, Le Prince Meurtrier, qui est le premier tome d'une saga intitulée Les Trois Pouvoirs chez LibriNova. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de vous. Alors vous habitez les Yvelines, mais vous connaissez très bien Chartres, hein, je crois que vous visitez régulièrement en famille, et vous êtes originaire de Tours.
Voilà, je suis tourangeau, je vis dans les Yvelines, dans une petite ville qui s'appelle Carrières-sur-Seine, d'ailleurs qui est un centre-ville historique, presque moyenâgeux, et unique presque en Ile-de-France, en tout cas dans cette partie de la région parisienne. Je connais bien Chartres, de plus en plus, puisque dès que j'ai l'occasion de m'arrêter avec mes enfants et mon épouse, je le fais. J'adore la cathédrale de Chartres, évidemment. J'ai passé une journée entière tout seul au printemps dernier et je compte m'y rendre en dehors même de la dédicace dans les semaines qui viennent.
Très bien.
Le pèlerinage de Pentecôte.
Ah oui, d'accord. Oui, j'espère que ce sera maintenu, tout ça.
Mais... Moi aussi.
Alors, Monsieur Leloup, c'est un premier roman, un roman qu'on peut qualifier comment historique, roman d'aventure.
Ben, c'est un petit peu tout ça. L'origine du roman, c'était de... Enfin, j'ai un peu écrit le livre que j'avais envie de lire. C'est-à-dire que j'ai découvert sur le tard les romans de KPDP, les romans d'Alexandre Dumas, les romans... historique, classique, mais avec beaucoup d'action aussi. J'ai regretté, avec le recul, de ne pas en avoir lu pendant mon adolescence. Et c'est un genre que j'adore. Et j'avais envie de les faire vivre pendant la période du Moyen-Âge, une période assez méconnue, mais clé dans l'histoire de France, qui est ce tout début du XVe siècle, juste avant Jeanne d'Arc. Et je dirais que le point de départ, ce qui m'a donné l'idée de ce roman à l'origine, c'était le personnage de Yolande d'Aragon. Alors, Yolande d'Aragon, c'est une grande féodale méconnue, mais qui est, si vous voulez, la femme qui a un peu gagné la guerre de Cent Ans. Elle a tout fait pour rester dans l'oubli, elle s'est toujours effacée, mais c'est en fait une femme qui est derrière... une grande partie de l'aventure joannique, l'aventure de Jeanne d'Arc, qui est derrière la sorte de reconquista française sous Charles VII, et qui commence déjà, et qui est déjà présente et vivante, sous le règne de Charles VI, le roi folle. Donc j'ai voulu m'intéresser à cette période, et puis ensuite, en faisant des recherches sur cette dame, j'ai découvert le personnage de Jean sans peur, de Louis d'Orléans, le duc d'Orléans, le frère du roi de France, qui est lui-même Charles VI, fou, Isabelle de Bavière, donc tout cet environnement-là, et c'est comme ça que je me suis plongé dans le livre, et que dans mon projet d'abord d'histoire qui est devenu un livre.
Et alors ce que vous ne dites pas, c'est que c'est un roman extrêmement documenté. Hein. Je ne sais combien de temps vous avez travaillé à sa préparation, alors... tant pour les recherches historiques que géographiques, sans oublier aussi le vocabulaire par exemple qui appartient au milieu des armes ou au jeu par exemple. Moi je pense à la partie de Vachette. Alors, la partie de Vachette, ça n'a rien à voir avec les jeux d'Interville, mais c'est celui d'un jeu de dés. Alors, j'imagine, vous avez passé combien de temps à aller vous documenter ?
Alors, j'ai une trentaine d'ouvrages clés historiques dans lesquels je me suis plongé. Je suis de nature curieuse. J'ai été journaliste pendant 15 ans. Avant, j'ai été avocat de formation. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai beaucoup appris. J'ai l'habitude d'apprendre. Donc moi, j'aime être... quand je me suis plongé dans mes recherches, j'étais fasciné par ce que je découvrais sur le Moyen-Âge, qui était une période... fascinante et très contrastée, où il y avait du tragique mais aussi du comique, et j'ai voulu faire partager au lecteur une partie seulement de mes recherches, de ce que je trouvais à travers l'histoire. Alors effectivement, il y a du vocabulaire, il y a de l'époque, parce que mon idée n'était pas de faire un ouvrage, un roman trop contemporain. J'ai voulu que les gens n'aient pas une idée du Moyen-Âge, mais qu'ils soient plongés dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'ils puissent se sentir presque physiquement dans une rue de Paris en 1407, et qu'ils comprennent, qu'ils touchent du doigt ce qu'était la France à cette époque-là. D'où les détails sur parfois les jeux, parce qu'au Moyen-Âge on jouait beaucoup, on misait beaucoup, où effectivement les armes, le langage de la police, le langage des brigands, voilà, qui ont aussi leur dialecte, c'est tout ce qu'on retrouve dans le roman.
Oui, c'est vrai qu'on plonge, avec ce roman, on plonge dans l'histoire, le fond de la guerre de Cent Ans, mais on est aussi dans un Paris très sombre, hein, habité d'une certaine façon. D'ailleurs, en passant, merci pour votre... Au début du livre, vous mettez un petit peu un plan là, des personnages, enfin, vous rappelez leurs qualités. C'était bien utile, hein, pour moi, qui dans la lecture du livre. Et puis un plan de Paris, de 1400-1407. Paris, ce Paris-là, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans... C'est un Paris du... Aujourd'hui, on le retrouverait où, ce Paris ?
Alors, aujourd'hui, c'est un Paris minuscule, oui. Puisque c'est un Paris qui est autour de l'île de la Cité, un petit peu nord, un petit peu au sud, ça couvre deux arrondissements à peu près. En fait, Paris, c'était pas mon idée au départ, mais il s'est imposé comme quasiment un personnage à part entière, parce que tout se passe à Paris et que j'ai voulu donner des indications sur les lieux, les sites de dans lesquels évoluaient mes personnages. Donc effectivement, une fois que j'ai écrit le livre, je dis, il faut faire un plan de Paris pour que les gens s'y retrouvent. Donc c'est un Paris très populeux. Effectivement, alors selon nos critères à nous contemporains, c'est un Paris qui est sale, où tous les mondes se côtoient dans des... Il y a des rues, mais on appelle ça aussi des venelles, c'est-à-dire ce sont des rues très étroites. On aperçoit, c'est des rues assez obscures parce que les maisons sont construites en saillie, c'est-à-dire un étage devant l'autre monte comme ça, donc on voit à peine, on a des bandes de ciel au-dessus de soi plutôt qu'un ciel dégagé comme aujourd'hui. Mais ça vit, ça grouille de monde, c'est une des villes les plus importantes d'Europe en termes de population, donc il y a une densité démographique très forte. Et c'est vraiment une ville de contraste, c'est-à-dire que vous avez des palais somptueux, à l'intérieur somptueux, parce que vous avez Paris, la ville de la cour et la ville des puissants, qui ont chacun, alors à l'époque on appelle ça un hôtel, c'est écrit comme un hôtel aujourd'hui, mais c'est une sorte de palais, donc à l'intérieur de ces hôtels, c'est un monde de richesse, et puis on sort dans la rue et là on est dans la boue, on est dans le monde à la fois des pauvres, des marchands aussi, parce qu'il y a des marchands qui est une classe de bourgeois qui émerge et qui vit bien. Il faut savoir aussi, alors pour l'anecdote, que on a une consommation de viande qui est très élevée au début du 15e siècle en France, donc les gens sont bien nourris, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le Parisien de 1407, et je dirais plutôt en bonne santé, bien nourri. Donc c'est un monde contrasté, assez fascinant, dans lequel plusieurs couches de population, je dirais, coexistent. Et c'est ça qui m'a fasciné et que j'ai voulu retranscrire dans le livre.
On sent que vous adorez cette période-là, du Moyen-Âge. C'est une période à laquelle vous auriez aimé vivre ?
Difficile à dire. Là, on est pendant 1407, ça veut dire qu'on est pendant la guerre de Cent Ans, et pendant une période de trêve, mais donc de calme, mais un calme apparent, avec quand même une c'est une période assez tragique. Donc vivre à cette époque-là, c'est vrai que par rapport à nos critères de confort, aujourd'hui on est confronté à une épidémie, mais une épidémie au Moyen-Âge, ça faisait beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui. On n'avait pas de système de soins aussi développé. Donc c'est un monde, de ce point de vue-là, qui est plus incertain. La vie est plus fragile.
Tout à fait, bien sûr.
En revanche, c'est un monde chrétien.
Oui.
Alors c'est difficile à imaginer pour les aujourd'hui, parce que dans un monde aussi déchristianisé que l'Europe, je dirais, de 2020, mais toutes les références sont chrétiennes. Donc de ce point de vue-là, c'est un monde aussi qui est plus doux qu'aujourd'hui, du moins à mon sens. Il y a aussi une espérance qui est différente. C'est un monde de symboles, tout est symbolique au Moyen-Âge. Je pense que les gens vont... c'est un rôle plus entier. Donc, c'est pas un monde de confort bourgeois, je mets ça avec des guillemets. Aujourd'hui, on a, jusqu'à présent, en tout cas, on vit dans un, depuis quelques dizaines d'années, dans un certain confort. C'est évidemment pas le cas au Moyen-Âge. Mais en même temps, les gens, je pense, ont plus peut-être de force intérieure. C'est difficile à dire. Écoutez, en tout cas, si on veut vivre en France en 1407, je dirais qu'il faut être assez solide, le cœur bien accroché.
Alors, votre roman, il peut être lu, je pense, déjà par des grands ados, hein ?
Oui, alors, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai ce dont j'ai un peu, avec le recul, ce que j'ai regretté quand j'étais adolescent, à l'école, quand on vous fait lire 14, 15, 16 ans, 18 ans, 17, 18, c'est qu'on vous donne, on vous met en main tout de suite des romans, en tout cas pour ma génération, donc années 80, début des années 90, on vous met des romans qui sont très réalistes du mode 19e, alors que je pense que quand on est adolescent, même quand on est plus vieux d'ailleurs, les romans épiques, ben, ça fait plaisir. Ça entraîne, on peut apprendre tout en s'amusant, tout en étant dans le mouvement, tout en étant dans le monde des grandes aventures. J'en veux pour preuve le succès des séries télévisées. Aujourd'hui, sur Netflix et les autres canaux, il se passe des choses. Donc moi, j'ai voulu faire vivre tout ça dans mon roman. Et donc, pour des grands adolescents, ils auront du tragique, ils auront de l'aventure, de l'épique, des scènes un petit peu plus psychologiques. Et je pense que quand on a 17-18 ans, c'est bien. C'est bien, c'est un bon équilibre. On apprend des choses, mais en même temps, on ne s'ennuie pas.
Et puis, c'est un tome 1, donc il y en aura d'autres.
Bien sûr.
En préparation, ça nous fait plaisir.
C'est une saga. Mais... Alors, c'est au moins une trilogie.
D'accord.
Donc, le livre est conçu comme un petit peu comme une série télé, j'y reviens, ou comme même un feuilleton hein, au 19e, Alexandre Dumas ou d'autres publiaient leur roman sous forme de feuilleton. L'idée est de donner envie à la fin du premier volume, donc, de plonger dans le deuxième.
Écoutez,
il y a les intrigues ont plusieurs fils, il y a plusieurs niveaux d'intrigue. Il y a une intrigue qui va évidemment trouver sa résolution dans le livre, pour qu'on ne soit pas déçu. Et puis, il y a d'autres fils qui sont jetés. Il y a un long fil d'Ariane, d'ailleurs, qui est jeté dès ce premier roman et qui a un rapport avec Jeanne d'Arc.
Exactement.
Et ça, je laisse découvrir il faut lire le livre pour comprendre.
N'en disons pas plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment, d'avoir accepté cette interview sur Radio Grand Ciel. Et puis, on vous retrouve le samedi 21 mars, de 15h à 17h, donc à la Procure, 16 rue du Cheval Blanc, à Chartres, c'est juste à côté de la cathédrale. Merci Monsieur Leloup.
Ce sera avec un immense plaisir que je me rendrai dans votre librairie.
Merci
beaucoup Madame Lucas.
Au revoir.
Au revoir.